Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 29 mars 2024. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vues passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que tout va bien dans votre vie. Moi, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Cette semaine, j'ai découvert je suis pas mal sur Twitch ces temps-ci. Bon, j'ai recommencé un petit peu à jouer, là, mais je suis plus un visionneur qu'un créateur. Et j'ai découvert un jeune français qui... je vais vous donner son nom de profil sur Twitch. C'est C-E-N-T-H-O-L-E-B-E-S-T. Santo Le Best. C-E-N-T-H-O-L-E-B-E-S-T. Et puis lui, il s'affaire à arnaquer les arnaqueurs. Donc, je ne sais pas comment il fait ça, mais je sais un peu, mais j'en dirais pas plus. Mais il réussit à surveiller en direct les appels des arnaqueurs. Et puis, à la toute fin, il coupe la ligne et il rappelle la personne qui a été fraudée ou sur le point d'être fraudée. Et il donne les informations comme d'appeler à la banque, d'aller à la banque en personne, de geler son compte, de geler sa carte et tout ça pour éviter qu'il y ait des dégâts. Je trouve qu'il fait une bonne œuvre utile parce que, bon, il y en a tellement, il y en a de plus en plus. Lui, il les emmerde vraiment royalement, excusez-moi le terme, mais parfois, il les bombarde. Bon, il a créé un genre de petit bot qui s'appelle Madeleine. Il bombarde les centres d'appel de fraudeurs avec ce petit bot-là. Mais c'est drôle. C'est drôle. Il lui a décidé de faire ça pour l'instant. Là. Je pense qu'il vit encore chez ses parents. Puis il a décidé de faire ça pour aider la société. J'ai trouvé ça bien. Il a même été, je pense, interviewé dans un... Je me souviens pas, France 2. En tout cas, bref, il y avait eu une chronique sur comment effectivement, il expliquait comment changer... Ben, il donnait pas le détail, mais il y avait des logiciels qui permettent de changer notre numéro de téléphone. Alors, surprenez-vous pas s'il y a beaucoup de fraudeurs qui appellent, souvent avec des numéros locaux. Ben, ils donnaient... En tout cas, bref, c'était super intéressant, si ça vous tente d'aller voir ça. Santo Le Best, C-E-N-T-H-O-L-E-B-E-S-T. Hey, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 11 a remplacé courrier et calendrier par Outlook et vous n'aurez pas le choix. Au fil des mises à jour, Windows 11 s'affine et se peaufine en attendant le déploiement de sa plus grosse mise à jour, Hudson Valley. Microsoft rassemble tous ses services et bien prochainement, certaines applications vont passer à la trappe. Une mise à jour de taille va prochainement bouleverser les habitudes des utilisateurs de courrier et de calendrier. L'application Outlook va les remplacer sous Windows 11 pour rassembler tous les services de Microsoft sous la même bannière. Lorsque courrier est ouvert, un message prévient de ce changement à venir. L'utilisateur a le choix entre amorcer cette fusion dès à présent ou attendre que ce soit obligatoire. En bref, il est possible de retarder l'échéance, mais après, ce sera impossible. En revanche, si vous ne choisissez pas l'une ou l'autre des options, eh bien, l'installation de l'application Outlook se fait instantanément. Microsoft force un peu la main en imposant la présence de son client de courrier électronique aux utilisateurs de Windows. La fusion de ces deux services sous la bannière d'Outlook est aussi dans un but de rendre les choses plus simples, mais dans les faits, elle risque de chambouler les habitudes des utilisateurs qui préfèrent gérer indépendamment courrier et calendrier. Ce changement pousse également à utiliser un client de courrier électronique de Microsoft et dernièrement, petite parenthèse, il y avait des petits soucis de confidentialité ou de publicité avec l'outil Outlook. Reste toutefois à savoir si cette fusion sera effective en France. Le Digital Market Act, le DMA, de l'Europe empêche ces pratiques. Parmi les changements, Windows ne se connecte plus automatiquement à d'autres services. Autrefois, vous vous connectez à Outlook, vous connectez aussi à Xbox, par exemple. Peut-être que ce nouveau règlement bloquera l'absorption de courriers et de calendriers par Outlook. Le DMA a eu des conséquences auprès d'autres géants de la tech que Microsoft. Par exemple, Maps n'apparaît plus par défaut lorsque vous faites une recherche Google. Mais l'un des plus gros changements reste pour Apple, hein, qui n'a plus le choix et doit accepter les alternatives à son App Store. « Microsoft Office, une nouvelle version sans abonnement arrive. Microsoft lancera une nouvelle version de sa suite bureautique sans abonnement dans le courant de l'année. Cette mouture appelée Office 2024 se destine aux entreprises et au grand public qui ne veulent pas d'un abonnement. Office 2024 proposera les dernières améliorations apportées à Word, Excel, PowerPoint ou encore Outlook sur Mac et PC. Microsoft mentionne l'arrivée de nouvelles options de création de réunions et des améliorations de recherche dans Outlook. Il y aura également des dizaines de nouvelles fonctionnalités et fonctions Excel, dont des graphiques et des tableaux dynamiques. La suite sera maintenue pendant 5 ans, comme l'édition 2021, maintenue au niveau des mises à jour. La disparition définitive de la licence perpétuelle au profit de l'abonnement est régulièrement évoquée depuis que Microsoft a pris le virage du cloud et de l'intelligence artificielle. Malgré la tendance des éditeurs à proposer des logiciels sur abonnement, eh bien, le géant américain n'a jamais confirmé l'arrêt des versions perpétuelles pour les particuliers et les entreprises. En revanche, Microsoft fait tout pour vous inciter à basculer vers Microsoft 365. L'éditeur précise qu'Office 2024 aura droit à de nombreuses améliorations, mais cette version devra se contenter des correctifs de bugs et de sécurité. En effet, elle ne bénéficiera pas de fonctions cloud de Microsoft 365, comme la collaboration en temps réel, l'automatisation basée sur l'IA dans Word, Excel et PowerPoint, ou les fonctionnalités de sécurité et de conformité soutenues par le cloud. Comme pour la version actuelle, Office 2024 ne devrait pas proposer de mise à jour des fonctionnalités ni de fonctionnalités avancées sur les tablettes et téléphones. Il ne faut pas non plus attendre de stockage supplémentaire en ligne, le fameux 1 Teraoctet. Microsoft n'évoque pas encore la date de sortie d'Office 2024 pour Windows et Mac. En revanche, il précise que cette version sera compatible avec Windows 10 et qu'elle prendra en charge les versions 32 et 64 bits. Côté prix, le tarif de la licence ne changera pas pour les particuliers. Il sera de 149 €. En revanche, il y aura une hausse de 10% pour les versions LTSC qui sont destinées aux entreprises. Enfin, Microsoft confirme qu'il y aura encore une autre version après Office 2024. iPhone, un nouvel écran anti-reflet et résistant aux rayures. Plus d'un an avant sa sortie, l'iPhone 17 fait peu à peu parler de lui. Attendez, iPhone 17, on est juste rendu à 15 et vous êtes déjà en train de parler du 17. Incroyable. D'après les informations glanées par Instant Digital, un informateur très actif sur le réseau social chinois Sina Weibo, eh bien, Apple envisagerait de se servir d'un nouveau verre anti-reflet et plus résistant aux rayures pour recouvrir l'écran OLED. Grâce à cette couche protectrice en verre, les utilisateurs n'auraient plus aucun intérêt à placer un film protecteur sur l'écran tactile. La fuite laisse entendre que les problèmes de rayures seront de l'histoire ancienne. En théorie, il ne faudra plus craindre de glisser son iPhone dans ses poches déjà occupées par des clés ou de la monnaie. Ou du fil barbelé peut-être. Non, ça c'est moi qui viens de rajouter ça. Le nouveau revêtement en verre n'aurait pas que des atouts. Après un an d'utilisation, la couche oléophobe qui réduit les traces de doigts du revêtement commencerait à dysfonctionner. Dans ces conditions, les utilisateurs peuvent s'attendre à ce que des traces de doigts provoquées par l'huile naturellement présente sur la peau humaine, eh bien, finissent par apparaître. Et puis, il est toujours possible qu'Apple corrige le tir et trouve une solution au problème des traces de doigts d'ici au lancement de la production de masse des iPhone 17, qui n'est pas prévu avant l'été 2025. Ah oui, c'est vrai, c'est déjà l'année prochaine. Selon le leaker, Apple a injecté des milliards de dollars pour mettre au point ce nouveau revêtement plus résistant pour ses iPhones. La fuite n'évoque pas l'identité du fournisseur de la couche protectrice. Selon certaines personnes d'Apple Insider, il s'agit vraisemblablement de Corning, l'entreprise américaine spécialisée dans la fabrication de verre et de céramique. Le revêtement évoqué par la fuite serait donc une nouvelle version du fameux Gorilla Glass qu'on retrouve sur de nombreux nombreux téléphones Android. Notez qu'Apple a plusieurs fois financé les recherches menées par Corning. Depuis 2017, le géant de Cupertino a investi plus de 850 millions de dollars dans la société, quand même. Ce n'est pas la seule nouveauté attendue sur les écrans du iPhone 17. D'après un faisceau de rumeurs, Apple proposerait pour la première fois une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz sur ses iPhones les plus abordables. Jusqu'ici, les iPhones les moins chers devaient se contenter d'une fréquence de 60 Hz. Les États-Unis attaquent Apple en justice. Après l'Union européenne et avec le Digital Markets Act, le DMA, Apple va devoir affronter une nouvelle menace. Le département de la justice des États-Unis et plusieurs États ont décidé de saisir la justice accusant la marque à la pomme de pratiques anticoncurrentielles. Ils reprochent également à Apple d'avoir organisé et d'entretenir un monopole sur le marché du téléphone intelligent. Je cite, Apple exerce son pouvoir de monopole pour soutirer davantage d'argent aux consommateurs, aux développeurs, aux créateurs de contenu, aux artistes, aux éditeurs, aux petites entreprises et aux commerçants, entre autres, écrit le ministère de la Justice. Apple fait régulièrement face à des critiques, même aux États-Unis, concernant le monopole de l'App Store. En revanche, les reproches formulés par le gouvernement américain vont beaucoup plus loin et placent Cupertino dans une situation inconfortable. Les États-Unis formulent plusieurs exemples pour démontrer comment Apple aurait maintenu illégalement son monopole. Alors, je cite des exemples. Bloquer des applications de cloud gaming. Là, je pense qu'Apple ne le fait plus depuis le début de l'année. Empêcher l'interopérabilité entre les messageries. Apple est accusé de dégrader l'expérience utilisateur des apps de messagerie entre l'iPhone et les plateformes concurrentes comme Android, favorisant iMessage. Limiter les fonctionnalités des montres intelligentes tierces avec ses iPhones et rendre plus difficile pour les utilisateurs d'Apple Watch d'abandonner l'iPhone en raison de problèmes de compatibilité. Empêcher les développeurs tiers de proposer des concurrents à Wallet d'iOS et d'utiliser le NFC de l'iPhone. Je cite, « Toutes les décisions prises par Apple ont établi et renforcé les défenses protégeant son monopole dans le domaine des smartphones, assure le gouvernement américain. » Et d'ajouter qu'Apple a lésé, je cite, « les utilisateurs, les développeurs et d'autres parties qui ont contribué à faire de l'iPhone ce qu'il est aujourd'hui. » Eh bien, les accusations formulées contre Apple s'inscrivent dans un contexte de régulation des big tech aux États-Unis. Outre-Atlantique, Google ou encore Amazon ont dernièrement fait l'objet de poursuites de la part du gouvernement. Des affaires qui ne sont pas sans rappeler la situation en Europe avec l'entrée en vigueur de la fameuse DMA. Dans une déclaration transmise à l'AFP, la firme de Cupertino s'oppose de la même manière à la décision américaine. Et je les cite, « Cette action en justice menace ce que nous sommes et les principes qui distinguent les produits Apple sur un marché férocement concurrentiel », affirme Apple. L'entreprise ajoute que si la procédure aboutit, elle créerait un dangereux précédent permettant au gouvernement de peser lourdement dans la conception de la technologie grand public. Une chose est sûre, l'étau se resserre encore davantage autour d'Apple et il sera difficile de résister à une telle attaque sur son premier marché mondial. Google lance une nouvelle version de Chrome pour les PC Windows sur ARM. Google a publié une nouvelle version de son navigateur web Chrome, compatible avec les PC Windows basés sur ARM et équipé des processeurs Snapdragon. Entièrement optimisée pour le nouveau matériel et système d'exploitation, la navigation devrait être plus rapide et plus fluide. Il ne faut pas oublier que le processeur Snapdragon X Elite ne sera pas commercialisé avant la mi-2024. Pour acheter un PC Windows équipé de Snapdragon X Elite, il existera deux options à partir du mois de mai, les Surface 6 et Surface Pro 10 de Microsoft. Si ces deux PC sont conçus pour les professionnels, ils devraient tous deux être déclinés en version grand public ultérieurement. Niveau caractéristiques techniques, le nouveau processeur de Qualcomm conçu pour l'IA sera doté de 12 cœurs Orion, ce qui devrait lui permettre d'offrir des performances CPU jusqu'à deux fois supérieures à celles de ses concurrents de 13e génération d'Intel. Le Snapdragon X Elite carte consommera aussi 68% d'énergie en moins environ. Des économies d'énergie qui devraient se traduire par une amélioration considérable de l'autonomie de la batterie. La nouvelle version ARM de Chrome comprend aussi la fonctionnalité Help Me Write. Cet assistant de rédaction alimenté par l'IA générative de Google peut aussi bien vous être utile pour débuter dans la rédaction d'un article que pour peaufiner un texte existant. Les utilisatrices et utilisateurs de cette nouvelle version de Chrome auront également accès à des milliers d'extensions et de thèmes du navigateur. Il existe pour l'instant peu d'appareils Windows basés sur ARM. Néanmoins, avec cette annonce, Google prend le pari que ce nombre va augmenter dans les années à venir. La version ARM de Chrome sera disponible cette semaine, a précisé l'entreprise. Les smartphones Samsung intègrent une fonction attendue depuis 8 ans. Après Google, le constructeur coréen a été le premier à s'aligner en proposant 7 ans de mise à jour sur ses Galaxy S24. Samsung était néanmoins à la traîne en ce qui concerne les mises à jour transparentes d'Android. Aussi appelées les mises à jour rapides, les Seamless Updates ont fait leur apparition il y a 8 ans avec la sortie d'Android Nougat, Android 7. La fonctionnalité est pratique et permet aux appareils de télécharger et d'installer une mise à jour en arrière-plan, puis de l'appliquer lors du redémarrage. Dans le détail, Google propose un mécanisme de double partition, hein, partition A, partition B, qui permet au système d'exploitation de se lancer, de se booter depuis une de ses partitions A ou B. La mise à jour est dite transparente lorsqu'elle s'installe sur la partition inactive en arrière-plan sans perturber l'utilisateur. Et au redémarrage, le système bascule automatiquement sur la partition mise à jour. Sans ce mécanisme, le téléchargement et l'installation monopolisent le smartphone durant cette période. En cas de problème tel qu'une mise à jour défectueuse, la méthode garantit que l'utilisateur peut revenir à la partition précédente. Pour les utilisateurs, les atouts ne sont pas négligeables et l'approche offre une expérience plus fluide et sécurisée lors des mises à jour. Avec le Galaxy A55, le nouveau milieu de gamme phare de la marque Samsung, eh bien, ils adoptent enfin les mises à jour rapides. Les premiers retours confirment que ce smartphone prend en charge cette fonctionnalité. Lors du téléchargement d'une mise à jour, il y a quelqu'un qui a remarqué l'apparition d'un nouveau message « Téléchargement et installation » suivi de « Redémarrer maintenant » une fois l'installation terminée. Jusqu'à présent, les appareils Galaxy indiquaient le « Installer maintenant » lors de l'apparition d'une mise à jour. Le constructeur s'était jusqu'à aujourd'hui toujours refusé à adopter cette méthode, et ce malgré les efforts répétés de Google. La firme de Mountain View avait durci le ton avec Android 11 et avait progressivement amélioré cette fonctionnalité adoptée par la plupart des fabricants. Pourtant, même les récents Galaxy S24 conservent l'ancienne méthode de Samsung et ne proposent pas le Seamless Update. Il est d'ailleurs peu probable que les modèles Samsung existants prennent en charge les mises à jour transparentes. Le fabricant coréen semble d'ailleurs se préparer au changement prévu par Google pour Android 15. Sur la future version de son système d'exploitation, la firme de Mountain View souhaite imposer ce mécanisme de mise à jour. Plutôt que de lutter, Samsung devrait se ranger derrière la décision du géant américain. Facebook ressuscite la fonction culte des années 2000. Culte. Quand Mark Zuckerberg, hey Monsieur Zuckerberg, long time no see Mr. Zuckerberg, how are you Mr. Zuckerberg in your big bunker? Je suis désolé, délire total. Quand M. Zuckerberg a lancé Facebook, il n'y avait pas encore de fil d'actualité ni de bouton « like ». En revanche, dans les débuts du réseau social, les utilisateurs avaient la possibilité de s'envoyer des « pokes ». Et alors que cette fonctionnalité était très populaire à un moment, celle-ci est petit à petit tombée dans l'oubli. En vérité, le poke n'a jamais vraiment disparu. La fonctionnalité était toujours présente dans le réseau social, mais elle était très difficile à trouver puisqu'il fallait la chercher loin dans les paramètres, taper exactement poke dans la barre de recherche ou bien aller sur l'URL exacte de la page dédiée au poke de Facebook sur un navigateur. Hein? Je ne savais pas qu'il y avait une page. En tout cas, en 2024, le poke fait un retour en force. Dans une publication application Meta indique qu'au cours des derniers mois, le réseau social a observé une multiplication par 13 du nombre de pokes envoyés. La raison de cette hausse, eh bien, quelques changements que Meta a apportés sur Facebook sans faire d'annonce pour rendre le poke plus visible. Selon les explications de Business Insider, le bouton apparaît désormais sur les noms des personnes qu'on cherche sur Facebook. Et la page dédiée au poke apparaît désormais lorsqu'on fait des recherches comme poking ou pokes, mais pas uniquement lorsqu'on recherche le terme exact poke. En tout cas, il semblerait que cette vieille fonctionnalité de Facebook plaît aux jeunes utilisateurs qui n'étaient pas encore sur le réseau social quand les pokes étaient à la mode. Selon Business Insider, 50% des nouveaux pokes ont été envoyés par des utilisateurs âgés de 19 à 29 ans. Ce qui ne change pas, c'est le fait qu'on ne sait toujours pas exactement comment interpréter un poke. En effet, si certains l'utilisent pour attirer l'attention d'un autre utilisateur, d'autres s'en servent comme un moyen d'irriter quelqu'un. On peut aussi utiliser le poke pour signaler à une personne qu'on pense à elle. Et il y a ceux qui utilisent le poke pour flirter sur le réseau social. En tout cas, ne vous attendez pas à ce qu'un jour Meta donne enfin une explication. En effet, c'est son ambiguïté qui fait tout le charme de la fonctionnalité poke. Threads ouvre son bêta pour connecter les utilisateurs aux faits divers. Cette décision audacieuse marque un tournant dans l'évolution de la plateforme de microblogging développée par Meta, qui cherche d'ailleurs à se démarquer des géants centralisés des réseaux sociaux. Le fait divers, je ne sais pas comment prononcer ça, je pense que c'est le fait divers. Fediverse, c'est en anglais, fait divers. Ah, des fois les articles... Le fait divers est un vaste réseau de serveurs interconnectés fonctionnant selon le protocole ActivityPub. Il permet aux utilisateurs de différentes plateformes de communiquer et d'interagir de manière transparente. En rejoignant ce réseau décentralisé, Threads s'engage sur la voie de la liberté numérique et de la souveraineté des données. Meta et la souveraineté des données. Excusez-moi, petite parenthèse. Selon Meta, cette intégration avec le fait divers n'est que la première étape d'un plan ambitieux qui vise à repenser l'expérience des médias sociaux. Et je les cite, nous croyons fermement que l'avenir des plateformes en ligne réside dans la décentralisation et l'interopérabilité. Déclaré un porte-parole de l'entreprise. Concrètement, cette fonctionnalité bêta permet aux utilisateurs de Threads âgés d'au moins 18 ans et disposant d'un profil public de partager leur compte sur le fait divers. Mais pour l'heure, l'intégration ne sera disponible que dans 3 pays, les États-Unis, le Canada et le Japon. Pour activer cette option, il suffit de se rendre dans les paramètres du compte et d'activer le partage sur le fait divers. Une fenêtre contextuelle apparaîtra alors pour vous expliquer ce qu'est le fait divers et comment il permet aux utilisateurs de communiquer quelle que soit la plateforme qu'ils utilisent. Une fois activée, cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs d'autres serveurs comme Mastodon de trouver votre profil Threads, d'aimer, de repartager et de commenter vos publications. C'est donc l'occasion de se connecter avec un public plus large qui n'utilise pas nécessairement Threads, mais d'autres applications de réseau social alternatives. Cette intégration n'est pas sans limitation. En effet, pour l'instant, les utilisateurs de Threads ne pourront pas voir qui a répondu ou aimé leur publication depuis d'autres serveurs. De plus, il ne sera pas possible de partager des publications contenant des sondages. Lors de la conférence Fiddy Forum qui s'est tenue cette semaine, Peter Cotthold de Meta a mentionné lors de sa démonstration que l'entreprise travaillait à la résolution de ses problèmes. En dehors de l'aspect technique, cette initiative soulève des questions philosophiques profondes sur l'avenir des médias sociaux. Alors que les géants de la Silicon Valley sont régulièrement critiqués pour leur centralisation excessive du pouvoir et des données. Hein, Meta? Threads se positionne comme une alternative crédible. Cela passe notamment par la mise à disposition des utilisateurs d'un contrôle accru sur leur expérience en ligne.
Vous écoutez le rendez-vous tech d'Audiophile.
WhatsApp s'inspire de Discord. Dans la dernière mise à jour de sa version bêta pour iOS, l'application propose une nouvelle fonctionnalité, la possibilité de créer des événements au sein des groupes de discussion communautaires. Toutefois, cette nouveauté est déjà présente sur Discord, la plateforme de prédilection des gamers et des communautés virtuelles. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les administrateurs de communautés WhatsApp pourront organiser facilement des rendez-vous virtuels, des réunions ou encore des événements spéciaux. Chaque événement pourra avoir un nom propre, une description, pouvant aller jusqu'à 2048 caractères, une date de début, un lieu optionnel et la possibilité de lancer un appel vidéo au moment où l'événement débute. De quoi faciliter grandement la coordination et l'engagement des membres au sein d'une communauté. Lorsqu'un événement sera créé, tous les membres de la communauté recevront une invitation. Ceux qui l'accepteront seront alors informés par une notification lorsque l'événement débutera. Ce sera une sorte de sonnerie de rappel sur les détails essentiels, une fonctionnalité bien pensée qui évitera aux plus distraits de passer à côté d'un rendez-vous important. Bien entendu, WhatsApp a tenu à respecter l'un de ses principes fondamentaux, qui n'est rien d'autre que la confidentialité des échanges. Ainsi, les événements de groupe seront protégés par un chiffrement de bout en bout et seuls les membres de la communauté y auront accès. Une garantie de sécurité supplémentaire pour les utilisateurs soucieux de préserver leur vie privée. Si pour l'instant, cette fonctionnalité est réservée aux groupes de discussion liés à une communauté, WhatsApp envisage déjà de l'étendre à tous les groupes classiques. Une perspective enthousiasmante qui pourrait changer la façon dont nous interagissons et nous organisons des événements au sein de nos différents cercles sociaux et professionnels. Néanmoins, il faudra encore patienter un peu avant de pouvoir créer vos premiers événements sur WhatsApp. La fonctionnalité est actuellement en cours de développement et devrait être déployée dans une future mise à jour de l'application. Les alias de courriel débarquent dans ProtonMail. Il aura fallu 2 ans à Proton pour exploiter pleinement son rachat de Simple Login, alors que la société suisse avait déjà procédé à l'intégration des alias courriel dans Proton Pass, le gestionnaire de mots de passe. Elle dévoile son déploiement dans Proton Mail. Si vous avez consulté votre messagerie Mail Proton aujourd'hui, peut-être avez-vous remarqué cette petite nouveauté. Proton Mail intègre un générateur d'alias courriel offrant à l'ensemble de ses abonnés la possibilité de mieux protéger la confidentialité de leur véritable adresse électronique. Hide My Email est d'ores et déjà disponible sur le webmail ainsi que sur les applications Windows et macOS de Proton Mail. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur l'icône du centre de sécurité, le petit bouclier, dans la barre latérale de droite. D'ici, vous pouvez créer autant d'alias que vous le souhaitez. Si vous êtes abonné à la formule Proton Unlimited ou 10 identités alternatives si vous avez opté pour l'offre gratuite. Alors que l'option Hide My Email était jusqu'ici réservée à Proton Pass, son extension à Proton Mail facilite grandement la gestion des identités alternatives. Plus besoin de jongler entre différents services de l'écosystème Proton ni de créer d'adresses secondaires fixes dont vous devez manuellement paramétrer les options de transfert. Les alias créés à l'aide de la fonction Hide My Email sont générés aléatoirement et vous pouvez les supprimer à tout moment. Si vous n'avez pas de compte Simple Login, le seul paramètre que vous pourrez modifier est votre nom d'utilisateur. En revanche, si vous avez créé un sous-domaine Simple Login personnalisé, le générateur d'alias de Proton Mail vous permet de vous en servir pour créer votre adresse alternative. Hide My Email étant lié à votre véritable adresse électronique Proton, vous recevrez automatiquement les mails de confirmation ou d'autres messages envoyés par les sites web sur lesquels vous avez créé un compte. Une solution toute trouvée pour accéder à des services que vous n'envisagez d'utiliser qu'une seule fois ou dont vous connaissez les pratiques envahissantes d'envoi de courriel. PlayStation 5 Pro. Le processeur pourrait freiner les performances mais réduire le prix de la console. Alors que la PlayStation 5 Pro fait de plus en plus parler d'elle, la console soulève quelques interrogations. La fuite de l'intégralité de sa configuration a permis d'en apprendre plus sur la machine de Sony. Cependant, il reste encore trop mystérieuse. Par exemple, l'intégration de la nouvelle technologie d'upscaling intelligent PSSR à la PS5 Pro pourrait lui permettre d'améliorer les performances en jeu. Cependant, il est possible que sur certains jeux, cela ne représente pas un gain de FPS à proprement parler. Les joueurs seraient plutôt en face d'une stabilisation du frame rate. En effet, un jeu plafonné à 30 FPS ou frames per second, ne devrait pas voir son nombre d'images secondes passer à 60. Par exemple, sur un jeu comme Bloomborne, la nouvelle technologie de la PS5 Pro et ses améliorations de hardware devraient empêcher les chutes de FPS seulement. Ainsi, bien que Sony veuille faire de la PS5 Pro une console taillée sur mesure pour GTA 6, si les développeurs de Rockstar bloquent les FPS, la console ne pourra pas faire de miracle. Cela pourrait être une petite déception pour les joueurs. Au vu des spécifications de la configuration de la machine, ils pourraient s'attendre à une expérience en 4K à 60 FPS. De plus, la CPU, la AMD Zen 2, similaire à celui de la PlayStation 5 de base, pourrait également freiner l'amélioration des performances. En tout cas, c'est ce que sous-entend la dernière analyse de la console par Digital Foundry. En effet, malgré l'intégration d'un mode haute fréquence pour le CPU, le titre de Rockstar devrait se comporter de manière similaire sur les différentes consoles de Sony. Ce n'est pas très étonnant. Bien que la PS5 Pro soit pensée en partie pour Grand Theft Auto 6, il est peu probable que l'inverse soit vrai. Bien qu'elle représente une amélioration par rapport au modèle de base, le peu de changements concernant son CPU permettrait à Sony de limiter son coût de production. Cela pourrait se traduire par un prix relativement peu élevé. De plus, les ventes de la firme japonaise sont en baisse. De ce fait, pour rendre sa console compétitive et doper ses marques, Sony pourrait opter pour une fourchette de prix similaire à celle de la PS5. Ici, la version Pro pourrait être trouvée aux alentours de 500 euros. Un nouveau micro pratique pour votre téléphone intelligent. On connaît principalement Shure pour son fameux microphone SM7B, icône du podcast aujourd'hui. Allez voir sur Twitch, je vous dirais que 95% des gens ont un Shure SM7B. Mais la marque ne commercialise pas que des microphones de podcast ou de streaming. Elle se lance dans les microphones de poche que l'on branche sur un téléphone avec la gamme Move Mic. Shure indique dans son communiqué de presse que les microphones Move Mic peuvent se connecter directement sur les smartphones iOS et Android via les applications Motive et Motive Vidéo. L'idée est clairement de convaincre les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, journalistes, influenceurs, comédiens, etc. D'ailleurs, l'application permet de diffuser en direct sur Facebook et Shure prévoit d'intégrer les lives YouTube d'ici le printemps. En réalité, la marque spécialisée dans l'audio semble suivre la tendance des microphones compacts et sans fil, un peu comme Rode avec son Wireless Go. Le fabricant commercialise également des récepteurs universels afin de brancher les Move Mic sur un ordinateur, une caméra ou pour pouvoir utiliser des applications tierces sur un smartphone. Sans le récepteur, le Move Mic a une portée d'environ 30 mètres. Ce que met également en avant la marque, c'est le design de son nouveau produit. Le Move Mic ne pèse que 8,2 grammes et a des dimensions de 46 par 22 mm. Lorsqu'on le porte, seule une petite partie du microphone reste visible à la caméra. Shure précise que le microphone est certifié IPX4, ce qui signifie qu'il est résistant aux projections d'eau dans toutes les directions. Alors, qui dit microphone sans fil dit batterie, et celle-ci se recharge en USB-C. Selon le constructeur, une charge permet d'enregistrer durant 8 heures maximum. Et grâce à l'étui de chargement vendu avec, on peut obtenir jusqu'à 2 charges supplémentaires, soit 24 heures d'enregistrement maximum. Le Move Mic One avec un microphone est vendu à 289 euros en France. Le Move Mic Two avec deux microphones est quant à lui à 399 euros. Enfin, le récepteur universel est vendu par Shure pour le prix de 199 $ aux États-Unis. Il semble indisponible sur le marché français. GPT-5, certains clients l'auraient déjà testé. L'entreprise dirigée par Sam Altman publierait GPT-5 en milieu d'année, probablement dans le courant de l'été 2024. Une information venant de deux personnes proches du dossier qui ont partagé à Business Insider quelques informations au sujet du futur modèle de langage qui alimenterait ChatGPT. Ils affirment ainsi que certains chefs d'entreprise auraient déjà assisté à des démonstrations du dernier modèle et vu les améliorations associées. Les clients qui ont souhaité rester anonymes afin de pouvoir s'exprimer librement. d'enregistrement. Ainsi, après avoir vu une démonstration de GPT-5 appliquée à des cas d'utilisation et des données uniques à son entreprise, un PDG a déclaré, et je cite, « c'est vraiment bien, voire matériellement meilleur ». Ils prétendent par ailleurs que l'entreprise aurait fait allusion à des capacités encore inédites pour le modèle de langage, comme la possibilité d'appeler des agents IA développés par OpenAI pour exécuter certaines tâches de manière autonome. OpenAI n'aurait toujours pas fixé de date précise pour GPT-5, a déclaré une des sources, ce qui signifie qu'elle pourrait encore changer. Le nouveau modèle de langage de ChatGPT serait toujours en formation. Une fois cette phase terminée, la sécurité sera testée en interne par une équipe rouge composée d'employés et de personnes extérieures pour trouver un maximum de problèmes et les résoudre avant qu'ils soient mis à disposition du grand public. GPT-5 serait donc bien en route, mais une fuite récente fait également état de l'existence du modèle GPT-4.5 Turbo, qui est apparu dans un article de blog avant d'être retiré par l'entreprise. OpenAI propose déjà plusieurs modèles de langage pour son chatbot avec GPT-3.5 en version gratuite et GPT-4 en version payante. Elle pourrait donc adopter une structure similaire pour les prochaines versions de son outil. SpaceX travaille sur un projet de satellite espion. Reuters révèle l'existence d'un contrat secret d'un montant de 1,8 milliard de dollars entre SpaceX et le National Reconnaissance Office, le NRO. Cette agence méconnue du grand public est principalement responsable de la conception, la construction, du lancement et la maintenance des satellites de renseignement américains. Les satellites du NRO jouent, vous vous en doutez, un rôle crucial dans la sécurité des États-Unis en fournissant aux hauts responsables politiques, à la communauté du renseignement et au département de la défense, DOD, des informations critiques dans divers domaines, notamment l'imagerie directe de théâtres d'opérations et autres cibles du renseignement d'origine électromagnétique, ainsi que du renseignement tiré de mesures et de signatures radio. Le NRO était initialement une agence classifiée entièrement secrète. Son existence n'a en réalité été officiellement reconnue qu'au début des années 1990. L'agence opère sous la juridiction du DOD et travaille en étroite collaboration avec d'autres agences de renseignement et militaires pour remplir sa mission. De ce que l'on sait, les systèmes de satellites du NRO sont déjà capables de surveiller un large éventail d'activités à travers le monde, du suivi des activités terroristes à la surveillance des mouvements militaires de potentiels adversaires, en passant par l'évaluation de l'impact des catastrophes naturelles et de la surveillance du changement climatique. Selon des sources citées par The Verge, il serait question de centaines de satellites dotés de capacités d'imagerie du sol placés en orbite basse, ce qui, a priori, peut permettre des images de meilleure résolution pour la communauté du renseignement américain. Avec l'avantage d'une constellation dense qui permet une surveillance plus immédiate de n'importe quel point du globe. Le blog ajoute qu'il pourrait s'agir des prémices du projet Starshield, un réseau gouvernemental de satellites qui devrait être lancé par SpaceX. Évidemment, compte tenu de la nature secrète de ces opérations, il est difficile d'en savoir plus. Si ce n'est via ce tweet qu'Elon Musk qui expliquait que Starshield serait, je le cite, « détenu par le gouvernement des États-Unis et contrôlé par la Space Force qui dépend du département de la Défense ». Lancer des avions dans l'espace avec une catapulte électromagnétique. Pour lancer des engins dans l'espace, eh bien, la Chine compte les propulser au sol grâce à un gros élastique. Non, grâce à une piste d'envol basée sur des rails électromagnétiques. Après avoir atteint une vitesse de Mach 1.6, les réacteurs de l'engin prendraient alors le relais. Au lieu d'un pas de tir, les scientifiques chinois planchent sur une piste de décollage de plusieurs kilomètres dotée de rails électromagnétiques pour lancer le véhicule. La rampe permettrait de propulser un engin plus long qu'un jumbo jet et d'une masse de 50 tonnes à une vitesse de Mach 1.6. Une fois le véhicule en l'air, ses réacteurs prendraient alors le relais. Le projet est envisagé par la Société chinoise des sciences et de l'industrie aérospatiale, Kazik. Une rampe électromagnétique expérimentale de 2 km est déjà implantée à Datong, à l'ouest de Pékin. Elle pourrait propulser des engins à près de 1000 km/h. L'ambition de la Kazik est maintenant d'atteindre une vitesse de 5000 km/h en allongeant cette piste électromagnétique. Pour l'organisation, un tel système permettrait de réaliser de grandes économies en réduisant drastiquement la quantité de carburant dans les fusées et autres véhicules spatiaux. Le coût serait environ 50 fois moins cher qu'un tir de fusée par SpaceX. Une rampe de lancement électromagnétique n'est pas un nouveau concept, mais pour envoyer un engin dans l'espace, c'est une autre paire de manches. D'autres pays œuvrant dans le secteur aérospatial, et notamment la NASA, y ont déjà pensé, mais tous y ont renoncé. Reste à savoir si les Chinois vont y parvenir, car ces rails électromagnétiques devront nécessiter une quantité colossale d'énergie pour propulser un engin sur plusieurs kilomètres à une vitesse supersonique. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien, c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur linktr.ee/audiophile. Il y a même une section nommée Docu, le rendez-vous tech d'audiophile intégral, avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cet épisode. Moi, j'en ai arraché, pour être franc. Il y a des bonnes journées ou des mauvaises journées. Quand on a un problème de d'élocution ou de diction, on recommence, on efface. Puis la beauté des podcasts, et puis vous n'y voyez que du feu. Oh là là. Hey, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du rendez-vous tech d'Audiophile. Est-ce que c'est la semaine 5 avril? Non, c'est pas la semaine de l'éclipse. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!